Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu et nous lirons les premiers versets du Nouveau Testament en fait. Matthieu 1, les versets 1 à 17. Ensuite, nous lirons encore deux autres passages qui font écho, qui ont lien à cette péricope ici. Donc Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pérets et Zéra. Pérets engendra Hetsrom. Hetsrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jotham. Jotham engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Josias engendra Yéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yéconia engendra Shealtiel. Shealtiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihu, Abihu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Ahim. Ahim engendra Eliou. Eliou engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'ici, la lecture. On parlera de tout cela tout à l'heure, n'ayez crainte. Mais j'aimerais vous lire deux autres textes qui nous parlent un petit peu de deux personnages qui sont ici, dans cette généalogie. Le premier, c'est dans Genèse 12. Alors, pas tout le chapitre, bien sûr, nous disons Genèse 12, les versets 1 et 2. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc la source de la bénédiction. » Et le verset 3 encore. « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham, il était là dans la généalogie. Voilà de qui on parle ici dans Genèse. Le deuxième, dans 2 Samuel 7. Et là, nous lirons le verset 16, et ensuite les versets 26 à 29. Le verset 16, c'est Dieu qui parle à David. Et puis ensuite, les versets 26 à 29, c'est David qui parle à Dieu. Voici ce verset, voici ce que Dieu dit. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Voilà ce que Dieu a dit à David. Verset 26, « Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. » Que la main de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant, « Je te bâtirai une maison. » C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérités, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera éternellement bénie. » Voilà, pour donner la vie, il faut que l'œuf soit fécondé. Si l'œuf n'est pas fécondé, il n'y a pas de vie. Eh bien, de même, notre cœur doit être fécondé par le Saint-Esprit pour qu'il se produise la vie à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous comptons donc sur sa grâce et sur son œuvre ce matin, sur sa fécondation dans nos esprits quelque part. Noël, c'est devenu le rappel de la naissance de Jésus. Une naissance historique qui s'est passée il y a environ 2000 ans. Une naissance qui arrive dans l'histoire comme, en fait, votre naissance est arrivée dans l'histoire. Alors les enfants, j'ai une question. Est-ce que vous avez un papa et une maman? Eh bien oui. Et puis, est-ce que votre papa a un papa? Oui. C'est le grand-papa. Est-ce que votre grand-papa, il avait un papa? C'est l'arrière-grand-papa. Est-ce que l'arrière-grand-papa, il avait un papa? Oui, c'est l'arrière-arrière-grand-papa. Si, bon, on peut continuer longtemps encore, hein? Eh bien ça, en fait, c'est ce qu'on appelle votre généalogie. C'est ça, en fait. Le papa du papa du papa du papa, en fait, etc. Ça, c'est la généalogie. Ça signifie que vous n'êtes pas tombé sur la terre de nulle part. Tout à coup, vous étiez là. Non, il y avait un papa qui avait un papa qui avait un papa qui avait un papa, etc. Hein? Eh bien, Jésus, dont nous fêtons la naissance aujourd'hui, fait aussi partie de l'humanité. Il avait une généalogie. C'est vrai que pour lui, il avait une maman qui avait un papa, aussi une maman, etc. Puis tu peux remonter, qui avait un papa, qui avait un papa, etc. Par contre, c'est vrai que son papa qui lui a donné la vie, c'est Dieu directement. Donc, il n'a pas de papa humain qui lui a donné son sang, ses cellules, ses chromosomes, si vous voulez être précis. Mais Jésus a grandi avec une maman et un papa sur cette terre. Et même si ce papa ne lui a pas donné des chromosomes, il est son papa légal aux yeux des hommes. C'est lui qui l'a élevé et il l'appelait sûrement papa d'ailleurs. Donc, son papa légal a aussi eu un papa, qui a eu un papa, qui a eu... Enfin bon, vous avez compris, hein, une généalogie. Donc, Jésus a donc une généalogie légale par Joseph, son père adoptif. Ça, c'est une généalogie légale, par Joseph, son père adoptif. Et il a une généalogie de sang par sa mère, de laquelle il est né. Hein? Donc, sa maman qui a eu une maman, un papa, etc. OK? Si je dis tout cela, c'est parce qu'aujourd'hui, nous parlerons de la généalogie de Jésus. Ça, je crois que vous l'avez compris en lisant le texte tout à l'heure. Ce que nous pouvons déjà comprendre, c'est que si quelqu'un a une généalogie, donc un papa qui a eu un papa, etc., il fait partie de l'histoire de l'humanité. Parce que, en fait, nous faisons tous partie de l'histoire de l'humanité et Jésus, lui aussi, fait partie de cette histoire. Alors maintenant que vous savez ce que c'est qu'une généalogie, papa du papa, c'est bon, ça, ok? Donc, je vais vous présenter le menu de cette prédication de Noël. En entrée, nous allons comprendre pourquoi Matthieu a écrit cette généalogie de Jésus. Pourquoi il a écrit cette généalogie? Ensuite, comme plat principal, eh bien, nous chercherons à comprendre quelques enseignements qu'on trouve dans cette généalogie. Quelques-uns, on ne pourra pas tout voir, c'est tellement vaste. Et puis en dessert, nous parlerons d'une nouvelle généalogie. Alors pourquoi Matthieu a-t-il écrit cette généalogie? Pourquoi est-ce qu'on trouve cette généalogie au début du Nouveau Testament? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite et ensuite vous l'expliquer. La réponse, elle est claire, elle est simple. C'est que le trône de David n'est plus vide. Le roi promis est né. C'est pour montrer que Jésus est roi qu'il a donné cette généalogie. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus est né, il n'y avait pas de roi descendant de David en Israël. C'était en fait les Romains qui dominaient le peuple. Et en fait, quand ils étaient revenus d'exil 500 ans plus tôt, eh bien, depuis là, les Juifs attendaient un Messie promis, un roi qui serait le roi de la nation. Et les Juifs attendaient ce Messie, ce Christ. De nouveau, là, des mots, hein. Messie, où c'est se dire Messie, les enfants? Vous avez déjà entendu ce mot? Messie, ça veut dire celui qui est oint. Bon, là, de nouveau, on n'a plus l'habitude aujourd'hui de oindre. Hein. Oindre, c'est prendre un peu d'huile et mettre sur la tête de quelqu'un pour dire, voilà, je te mets de l'huile sur la tête pour te dire que maintenant tu seras roi, par exemple. Ça, c'est quelqu'un qui est oint. Eh bien, ce terme oint, en français, en hébreu, on dit Messie. Et en grec, on dit Christ. En fait, Messie, Christ, oint, c'est le même mot, mais en différentes langues, tout simplement. Et dans la Bible, il y a trois fonctions pour lesquelles on verse de l'huile sur la tête de quelqu'un. Alors les enfants, n'allaient pas prendre de l'huile pour la verser sur la tête des gens, hein, c'est pas l'idée. Mais on le faisait pour que quelqu'un ait une fonction particulière. Et il y avait trois fonctions dans la Bible pour qui on versait de l'huile sur la tête. C'était la fonction de sacrificateur, la fonction de prophète et la fonction de roi, justement. Et donc celui qu'on appelle le Messie, eh bien, le oin, si je dis en français, ou le Christ en grec, est donc quelqu'un qui a ces trois offices. Sacrificateur, prophète et roi. Et donc Matthieu, dans sa biographie de Jésus, qui est l'évangile selon Matthieu, veut particulièrement nous faire comprendre que Jésus est roi. Est-ce que vous connaissez d'autres évangiles dans la Bible? Ça, c'est une question un peu piège, en fait. Hein? Parce qu'il n'y en a qu'un d'évangile. Mais il y a quatre évangélistes, il y a quatre personnes qui ont écrit des biographies de Jésus. Hein? Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. OK? En fait, ces quatre biographies de la même personne. Ces quatre histoires du même salut. C'est comme si quelqu'un disait, ben maintenant je vais raconter l'histoire de Stan, par exemple. Il y a quatre personnes différentes qui racontent son histoire. Mais ça ne sera pas exactement écrit la même chose, parce que chacun le connaîtra un peu différemment, mettra d'autres aspects. Eh bien, c'est la même chose. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont quatre personnes qui ont écrit l'histoire de Jésus. Jean, c'est un pêcheur, donc qui faisait de la pêche, hein, qui est devenu apôtre et qui souligne fortement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. C'est-à-dire, Jean, il a vraiment envie que tous ceux qui lisent cet évangile sachent que Jésus est Dieu. Luc, c'est un médecin qui a fait des recherches historiques, qui a accompagné Paul, et il veut qu'on comprenne que Jésus est le sauveur des personnes du monde entier. Pas seulement des gens qui sont en Israël, mais des gens du monde entier peuvent venir au salut. Et le troisième, Marc, sûrement le scribe de Pierre, présente plus particulièrement les souffrances de Jésus dans l'évangile de Marc. Et Matthieu, c'est un péager, quelqu'un qui prenait les impôts, hein, qui était devenu apôtre de Jésus. Il veut montrer que Jésus, c'est le roi promis. Et en fait, Matthieu, il met cette généalogie, c'est une première étape, mais il ne met pas que ça dans Matthieu pour dire que Jésus est roi. Il parle de bien d'autres choses. Il commence par parler d'un roi rival qui veut le tuer. On verra des mages apporter des cadeaux royaux. On verra que Jean-Baptiste annonce que le royaume de Dieu est proche en parlant de Jésus. Même dans la tentation, Satan tente Jésus de vivre un royaume facile. Le sermon sur la montagne, c'est une explication du roi, des lois du royaume. Quand Jésus dit, par exemple, si quelqu'un dit à son frère imbécile, ben en fait, il est passible du même jugement que celui qui a tué. C'est en fait les lois du royaume de Jésus, c'est le roi qui donne ces lois. Ou encore, ses miracles attestent sa royauté sur la création. Ou encore, les histoires que Jésus racontait sont appelées les paraboles du royaume. Jésus est appelé, vous vous souvenez peut-être d'un aveugle qui l'appelle Jésus, fils de David. Quand quelqu'un dit fils de David, ça veut dire qu'il est de la lignée royale, c'est un roi. Jésus dit même à un moment donné dans Matthieu qu'il n'a pas besoin de payer la taxe puisqu'il est roi. Il la payera pour ne pas choquer les gens, mais il dit, mais moi j'aurais pas besoin de la payer, je suis roi. On se rappelle même de l'entrée royale de Jésus à Jérusalem, ou même sur la croix, où en fait il y a un écriteau en trois langues qui indique la raison de sa condamnation. Jésus, roi des Juifs, en trois langues. Et dernièrement, vous pourrez chercher encore dans Matthieu, il y a plein d'autres choses aussi, mais c'est pour vous dire, Matthieu tout le temps il veut nous montrer que Jésus est roi, même à la fin, juste avant son ascension, il dit à ses disciples ce que seulement un roi peut dire. Tout pouvoir m'a été donné. Seulement un roi qui peut dire ça. Jésus est. Voilà, donc ça c'est un élément important. Matthieu veut qu'on comprenne que Jésus est roi. Et pour être roi, il fallait le prouver par la lignée royale. Si quelqu'un voulait devenir roi, il veut dire, mais moi je suis de la lignée royale. S'il n'était pas de la lignée royale, il n'y a aucune prétention au trône. Il faut que le papa du papa du papa du papa de celui qui dit qu'il est roi soit David. Hein? David à qui Dieu avait fait une promesse d'un royaume éternel. On l'a lu dans 2 Samuel tout à l'heure. Et tout le monde savait que le Christ, donc le oint, hein, devait être un fils de David. Et quand on dit un fils, ça veut dire un descendant. Ça ne veut pas forcément dire le fils direct. Hein? Celui qui est arrière-petit-fils, il peut être considéré comme le fils de son arrière-grand-père en fait. Hein? C'est ça, dans la Bible, quand on dit fils, parfois, ça peut être deux, trois générations après. Donc, il devait être le fils de David. Et là, ben, en fait, on le voit dans le Nouveau Testament que c'était très clair, parce que quand Jésus parle avec les pharisiens, il leur dit ceci dans Matthieu 22, voilà, comme les pharisiens étaient rassemblés, Jésus leur posa cette question, « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ?» Ils répondirent, « De David !» C'était clair, « De David !» Et connaître son origine était vraiment importante. Or, pour la lignée royale, mais pas seulement. Ça, c'est comme on vient de voir, mais pas seulement. Par exemple, pour savoir où habiter. Parce que le pays d'Israël, en fait, quand ils sont rentrés dans le pays, eh bien, ça a été partagé par tribu. Donc, il fallait connaître de quelle tribu, à quelle tribu on appartenait pour savoir à quel endroit on allait recevoir un lot de terre pour y habiter. C'est important de savoir sa lignée. La lignée était aussi importante pour exercer le rôle du sacrificateur. On ne jouait pas avec le rôle du sacrificateur. On devait savoir, en fait, qu'on était descendant de Aaron. Celui qui n'était pas descendant de Aaron ne pouvait pas être sacrificateur. Sinon, il était même en danger de mort. Dieu est intervenu parfois. Les gens voulaient faire croire qu'ils étaient descendants, qu'ils ne l'étaient pas. Et même encore au temps de Jésus, c'était important. Vous connaissez l'apôtre Paul. Paul a dit à deux reprises de quelle tribu il venait. Il savait en fait quelle était sa généalogie. Il venait de la tribu de Benjamin. On l'a vu dans les Philippiens par exemple. Et même la naissance de Jésus, le lieu de sa naissance, est influencé par cet aspect. S'il est né à Bethléem, dans une crèche, et pas à Nazareth, dans une maison bien chaude, c'est pourquoi? Parce que, en remontant dans la généalogie, il venait de Bethléem. Et comme il y avait un recensement, ils devaient tous aller à l'endroit de leur origine, il était là à ce moment-là. Donc la généalogie était importante pour savoir d'où on venait, à quel rôle on pouvait prétendre et où l'on pouvait habiter. Et ça, c'est important. Un élément que j'aimerais vous dire maintenant, qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, en l'an 2016, aucun juif ne connaît plus sa généalogie jusqu'au temps de Jésus. Parce qu'en fait, toutes les généalogies ont été détruites lorsqu'on a détruit la Jérusalem. Tout a été détruit, donc ils ne peuvent plus remonter jusqu'à Jésus. C'est vrai qu'ils font des tests ADN actuellement pour savoir un petit peu jusqu'où, mais ils remontent à peu près à 1500 après Jésus-Christ. Mais personne ne peut dire « Moi, je suis de la lignée royale de David ». Plus personne ne peut prétendre au trône de David parce qu'ils ne peuvent pas le prouver. Jésus, en fait, était le dernier prétendant au trône de David vérifiable. Personne ne peut plus maintenant prétendre être le descendant de David parce qu'il n'y a aucune preuve possible. Même s'il y a encore des juifs orthodoxes actuellement qui attendent le Messie. C'est plus possible. Il n'y a plus cette lignée. Mais le Messie est venu. C'est Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui quelqu'un se présente et dit « Moi, je suis de la lignée de David, c'est moi le roi, c'est moi le Messie », faites-vous aucun souci, ce n'est pas possible. Il ne peut pas le prouver. Voilà, nous arrivons au bout de notre entrée. C'est comme ça, avec les apéros et les entrées, on prend un peu de temps, mais à un moment donné, on aimerait bien arriver au plat principal. Alors, le voici. C'est donc une généalogie remplie d'enseignements. La généalogie, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et la généalogie commence par deux références. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Deux références. Alors le premier, 2000 ans avant Abraham. Donc Dieu avait donné des promesses à Abraham. Il lui avait dit, Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et Paul explique dans les Galates, reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Et Paul continue plus loin, je vous fais grâce des versets entre deux, où il est dit ceci, c'est intéressant. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agit de plusieurs, mais à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voilà où nous amène cette généalogie. En fait, quand Dieu annonçait en fait une descendance par qui toute la terre serait bénie, il ne pensait pas à plein de personnes, il pensait à ta descendance, Jésus-Christ. En fait. Le deuxième, c'est David. Donc David, c'est celui qui est le roi, qui est aussi né un jour puis qui a aussi pleuré, comme on entend pleurer. Ça arrive, c'est normal, c'est les enfants. Il a grandi. Et Jésus était descendant de David de deux manières. Matthieu nous présente le lien légal. Et Luc 3 nous montre le lien de sang, où la généalogie remonte en fait depuis Jésus jusqu'à David par le sang. Et Jésus est donc doublement descendant de David. Il est descendant de David par sa maman, il est descendant de David par son papa. Jésus était donc un prétendant légitime au trône de David. Il a accompli ainsi les promesses faites à Abraham. Jésus est un prétendant légitime au trône de David. Il a accompli ainsi les promesses faites à Abraham. Jésus, c'est donc notre bénédiction, notre roi. Passons à un deuxième aspect rempli d'enseignement de cette généalogie. Les trois parties. Le verset 17 qu'on a lu parle de trois parties qui, à chaque fois, 14 générations. Il s'agit en fait de la première partie, de la partie des juges, des patriarches, et des juges. Les patriarches, c'est Abraham, qui a eu un fils qui s'appelle Isaac, Jacob, etc. Hein, et le temps des juges. Donc ces 14 générations, c'est du temps des juges, jusqu'à David. Ensuite, du temps des rois et des prophètes, jusqu'à la déportation. Et ensuite, du temps du retour de l'exil, jusqu'à Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose, depuis le retour de l'exil jusqu'à Jésus dans la Bible. Or, on pourrait prendre du temps maintenant pour parler de ces trois parties qui indiquent différentes étapes pendant lesquelles Dieu s'est révélé et a préparé un peuple que j'appelle le berceau du Christ. Ceux qui me connaissent l'ont déjà entendu plusieurs fois. Je dis que Israël, ce peuple, en fait, c'est le berceau du Christ. Il l'a préparé, il l'a gardé pour que Christ puisse sortir de ce peuple. La descendance d'Abraham. Mais pour la première partie, nous n'allons pas parler d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Joseph, ou même Moïse, ou encore Samson ou Samuel. Mais j'aimerais seulement vous traduire les noms des descendants d'Abraham jusqu'à David. Et en traduisant les noms, donc la signification des noms, nous obtiendrons un hymne. Intéressant ça. Un hymne que j'intitule ici « L'hymne à loin de Dieu ». Et voici ce que nous obtenons. Vous l'avez aussi sur les papiers si jamais. Vous pouvez aller vérifier après la signification des noms et voir qu'en fait ça correspond. Ce n'est pas des phrases qui sont très développées évidemment, mais vous verrez la signification est très forte. L'hymne à loin de Dieu, la première partie, qui dit ceci. Que le père d'une multitude, Abraham le père d'une multitude, le père aimant rit et se réjouisse, celui qui prend par le talon pour supplanter est venu, mais Dieu soit loué, il s'est ouvert une brèche. Le Très-Haut est un parent généreux contre le serpent ténébreux et ses impétueux alliés, il a mis au large. En lui est la force, le serviteur qui est salut, le bien-aimé. C'est juste incroyable. C'est tout un message qui est ici, simplement par la signification de ces noms. Pour la deuxième partie, je ne vais pas vous parler de Salomon, Roboam, Ézéchias ou Joas, ni d'ailleurs du roi Manassé, qui est le plus mauvais roi d'Israël, ou encore des prophètes comme Nathan, Néhémie, Ésaïe, bien qu'ils auraient tous quelque chose à nous apprendre concernant Jésus d'ailleurs. Nous allons procéder comme pour la première partie, et voir qu'est-ce que ces noms signifient et vont nous dire. Et c'est l'hymne au fils de David qui nous est donné ici. Qui dit ceci, le porteur de paix est venu, celui par qui le peuple s'est agrandi. L'Éternel est un père qui guérit, l'Éternel a jugé, l'Éternel est élevé, l'Éternel est ma force, l'Éternel est parfait. Il saisit pour conduire, il m'a soutenu. Oui, ma force, c'est l'Éternel, celui qui fait oublier le fidèle. Oui, l'Éternel guérit. L'Éternel m'établit, m'affermit, moi et mes frères. Ça, c'est l'hymne à David. Hein? Toutes les significations des noms. Si on prenait les significations de Vendôme, je ne sais pas quelle phrase on arriverait. Hein? Mais voilà ce que cela donne ici au fils de David, dans cette partie de David jusqu'à la déportation. Et pour la troisième partie, nous pourrions parler de Zorobabel, de Zacharie, Esdras, Néhémie, sans oublier Jean-Baptiste. Bon, là, vous vous y attendiez. Nous allons à nouveau voir qu'est-ce que cela nous dit de revoir la signification de ces noms. Et c'est ce que j'appelle l'hymne de l'héritier de l'Alliance. L'hymne de l'héritier de l'Alliance. Et voici ce qui est dit. L'Éternel m'a établi. Je l'ai demandé à Dieu. Moi, le rejeton de Babylone. Mon père, c'est lui. Dieu me met debout. L'Éternel a secouru en rendant justice et droit. L'Éternel affermira. Mon Dieu est majesté, il a secouru par le don qu'il protège et qu'il ajoute par loin de Dieu. Alors, j'aimerais tout de suite dire que ce qu'on vient de voir n'est pas un message caché qu'on doit découvrir pour entrer dans la relation avec Dieu. Non, la Bible est claire. On n'a pas besoin d'aller découvrir ce message caché, puisque la Bible le dit clairement, sans les significations de ces noms. Mais cela nous montre simplement que Dieu maîtrise même les noms qui sont donnés, et qu'il peut nous donner même un message par les noms qui sont donnés. Et il peut faire ressortir d'une généalogie des hymnes en l'honneur du Seigneur. C'est juste fabuleux quand on commence à découvrir ça, en fait. Dieu maîtrise vraiment tout jusqu'aux noms qui sont donnés. Et si le message à découvrir n'est pas caché, il faut tout de même, c'est vrai, méditer et réfléchir sur le texte. Hein, on ne peut pas juste, on lit ça une fois, on dit « Ah ben voilà, j'ai rien compris, donc Dieu ne m'a pas parlé. » C'est pas très fair play. Je veux dire, si vous donnez un texte à quelqu'un, et que la personne le lit comme ça, puis dit « Oh, ben, j'ai rien compris, tu n'as rien à me dire », vous lui direz « Mais attends, tu as lu, tu as essayé de comprendre ce que j'ai écrit ?» Et je pense que c'est important d'avoir aussi ce cheminement. Et là, nous allons encore le faire ensemble, en voyant un troisième aspect, en parlant simplement des cinq femmes que nous trouvons dans cette généalogie. C'est assez étonnant. Dans une généalogie, généralement, on passe du père au père au père, etc. Mais ici, il y a cinq femmes dans cette généalogie. Alors, on pourrait aussi prendre encore un quatrième point, je ne le ferai pas, n'ayez pas peur. On parlerait de tous les hommes encore. Hein. Mais j'ai choisi de parler de ces cinq femmes. Et c'est extraordinaire que Dieu a voulu que ce soit ces cinq femmes-là qui soient présentes dans la généalogie de Jésus. Dans une généalogie, en principe, on met quelque chose qui met en valeur. Si tout à coup, il y a eu des personnes importantes, des femmes importantes qui ont marqué l'histoire, on va les mettre dans la généalogie. Parce qu'on dit, ben voilà, ça relève l'image de celui qui a sa généalogie. On s'attendrait donc à voir, par exemple, Sarah, Rebecca, Léa, qui sont considérées comme les mères de la nation d'Israël. Ben, elles ne sont pas présentes. Elles ne sont pas présentes ici dans cette généalogie. C'est plutôt Tamar. Tamar qui a eu des enfants avec Judas, son beau-père, en jouant à la prostituée. Drôle d'histoire. C'est elle qu'on trouve en premier dans cette généalogie. Ensuite, c'est Rahab de Jéricho, une cananéenne qui devait être mise à mort par les Israélites, mais qui a été épargnée par les espions parce qu'elle les a cachés et qu'elle a reconnu que l'Éternel était Dieu. Puis un peu plus tard, au temps des juges, c'est Ruth qui est mise dans la généalogie de Jésus. Ruth, c'est une Moabite, un peuple né d'un inceste, une fille de Lot accouchée avec son père. Ça a donné un peuple qui s'appelle les Moabites. Et les Moabites ont même poussé le peuple de Dieu à adorer des idoles. Et ainsi, ils n'avaient plus accès au temple. Et pourtant, une Moabite fait partie de la généalogie de Jésus. La quatrième femme n'est pas nommée par son nom, mais présentée par le nom de son mari, qui n'est pas celui avec qui elle a eu l'enfant d'ailleurs, qui a été mise à, de son mari, qui a été mise à mort après qu'elle ait commis l'adultère avec David. C'est vrai que là, je peux bientôt plus résister pour vous dire que toutes ces femmes ne sont pas des références morales, on l'a compris, mais ce sont des références de la grâce de Dieu. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et ces quatre femmes, en fait, ne sont pas juives, et pourtant, elles sont de la généalogie de Jésus. Matthieu, il écrit à des juifs ici. Il dit, mais c'est la grâce de Dieu. Et là, j'ai parlé de quatre femmes. Il y a encore une dernière. La dernière femme dont il est question est une femme inconnue de tous jusqu'à ce qu'elle devienne mère. Mais avant qu'elle soit mère, personne ne la connaissait. Une fille quelconque, d'un petit village quelconque, fiancée à un homme quelconque. Une femme née dans le péché, comme tous ses compatriotes, comme nous, qui attendait le Sauveur. Et c'est cette femme qui a été choisie par Dieu pour porter en elle le Créateur lui-même. C'est Marie. Il est intéressant de noter, au verset donc 17, que dans la généalogie, que Jésus est né de Marie, l'épouse de Joseph, et non pas de Joseph et Marie. Hein, parce que chaque fois le père et la mère. Ici, il est dit, Joseph, il fait partie de la généalogie parce qu'il a été le père légal de Jésus, mais ce n'est pas son père de sang. Marie est la mère de sang de Jésus, elle a donné ses gènes au Tout-Puissant. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la peine à comprendre. Hein. Qu'un être humain peut donner ses gènes au Tout-Puissant qui vient se faire homme ici. En fait, c'est un mystère, mais c'est aussi une grâce immense qu'il a faite à Marie. Et je n'ai parlé que de ces cinq femmes ici, présentes dans cette généalogie. On pourrait encore prendre du temps, comme j'ai dit, pour parler de tous les hommes. Hein, et nous découvrirons que toute la généalogie de Jésus transpire de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa bienveillance, d'un Dieu qui s'en identifie à nous. Il n'a pas pris une lignée parfaite pour venir ici, il a pris une lignée qui était remplie de péchés, comme nous sommes remplis de péchés. Et si nous ne les pratiquons pas tous en plein jour, eh bien, il y en a beaucoup qui sont pratiqués dans notre cœur. C'est vrai qu'ici, j'encourage particulièrement les enfants, mais quand je dis les enfants, on dit toujours les enfants et les autres. Mais j'encourage particulièrement les enfants à bien connaître la Bible et les histoires qui s'y trouvent. Parce que si vous connaissez les histoires qui sont dans la Bible, quand je vous dirai Tamar, par exemple, vous aurez toute l'histoire qui vient avec dans votre tête. Et quand vous avez toute l'histoire qui vient avec, vous allez comprendre pourquoi c'est une grâce qu'elle est ici dans cette généalogie. Parce que c'est écrit dans la Genèse. Donc c'est important, si on connaît ce texte, ça nous encourage à la lire, à la comprendre. Et c'est ainsi qu'une généalogie devient intéressante. Si vous ne connaissez personne dans une généalogie, elle n'est pas intéressante. Elle est juste ennuyeuse. Mais lorsque vous connaissez, si vous faites partie d'une généalogie et que vous connaissez des personnes, tout à coup, elles vous intéressent. Ah oui, ah puis il y a celui-là et celui-là, etc. C'est la même chose ici. Vous avez beaucoup de personnes qui sont présentées dans leurs histoires, dans leur vie, dans la Bible, et ça vous aide à comprendre pourquoi elles sont là, puis pourquoi c'est une grâce en fait qu'elles sont là. Dans ce plat principal, nous avons pu comprendre que Jésus est le descendant promis d'Abraham, par qui toutes les familles de la terre seraient bénies. On a parlé d'Abraham. On a parlé de David. Jésus est le descendant de David, le fils de David, le roi légitime. Nous avons pu comprendre même que ces trois parties de généalogie sont en fait des hymnes à loin de Dieu, au fils de David, à l'héritier de l'Alliance. Et nous venons de voir que les cinq femmes présentes dans la généalogie de Jésus nous mettent sur la piste pour comprendre que toute cette généalogie nous indique que nous avons un Dieu de grâce. Si demander aux gens d'être parfaits pour pouvoir être acceptés par Dieu, ben Jésus ne le serait pas. Par rapport à sa généalogie. Jésus est parfait par sa vie, évidemment. Mais par sa généalogie, il ne le serait pas. Il est devenu comme nous. Il s'est identifié à nous. Alors pensons-y aussi cette semaine, lorsqu'on vivra quelque chose, on dira, mais non là, Dieu il pourrait pas m'accepter. Franchement, avec ce que je fais, ou avec ce que j'ai fait, avec qui je suis, Dieu peut pas m'accepter. Pensez à cette généalogie. Est-ce qu'il pourrait accepter une femme qui a, en fait, elle voulait absolument un enfant, elle n'a pas un enfant avec un homme, avec un deuxième homme, et puis en fait, elle va avec son beau-père, qu'elle trompe en jouant le jeu d'une prostituée pour avoir des enfants? Waouh! Dieu l'a même prise dans la généalogie de Jésus-Christ. Il n'y a pas de situation où on peut dire, mais moi je suis trop mauvais. C'est ça la grâce. Et on arrive au dessert, parce qu'après le plat principal, il y a le dessert. On a déjà bien mangé, donc on ne va pas prendre un grand dessert, on va prendre un petit praliné. Ok ? Un petit praliné. C'est ce que j'appellerai la nouvelle généalogie. La nouvelle généalogie. Parce que la généalogie de Jésus nous fait penser à notre généalogie. Et si on faisait votre généalogie maintenant ? Votre papa, qui avait un papa, qui avait un papa, qui avait un papa. On arriverait à Adam. Et Ève. Nous sommes tous descendants de Adam et Ève de sang. Adam et Ève se sont égarés et ont été condamnés au jugement. Nous sommes des descendants de coupables. C'est ça en fait notre généalogie. Nous sommes des descendants de coupables. Mais nos parents sont morts. Et un homme est venu pour payer le prix à ma place. Et il m'adopte dans sa famille, dans la famille de Dieu. Celui qui croit en Christ devient légalement descendant de Christ et n'est plus sous la condamnation. Il est dans la lignée de Christ. Bon, on va essayer de comprendre ça un petit peu. On va essayer de comprendre ça avec Alain. Alain, c'est un petit garçon. Un petit garçon qui a en fait des parents, qui est né dans une famille qui s'appelle Dupont. Ben oui, c'est Dupont. Okay? Donc Alain, il naît dans une famille Dupont. Quel sera son nom? Alain Dupont. Ben oui, évidemment. Donc il reçoit le nom de ses parents et donc la généalogie de ses parents. On est d'accord? Donc ses parents s'appellent Dupont. Son grand-papa s'appelle Dupont. son arrière-grand-papa s'appelle Dupont. Bon, on a compris, c'est la généalogie. Puis quand il aura des enfants, ils s'appelleront Dupont. Ils s'appelleront Dupont. Or, je ne parle pas des nouvelles façons de donner les noms qui sont en cours actuels. Hein. Là, on est en train de changer tout ça. Mais parlons de ce qui est habituel. Voilà, donc là, on a compris. Il est entré dans la généalogie Dupont par naissance, comme vous, par votre nom. Vous êtes rentré dans une généalogie par naissance. Mais ce pauvre petit Alain perd ses parents qui meurent dans un accident de voiture. Alain est recueilli par la famille Maillard. Cette famille fait les démarches d'adoption et il entre ainsi dans la généalogie Maillard. Monsieur Maillard devient son père. Et s'il a des enfants, ils s'appelleront Maillard, qui auront aussi des enfants qui s'appelleront Maillard. Et si le grand-père Maillard a une fortune, Alain sera l'héritier. Vous comprenez ? Il a changé de généalogie, en fait. Nous sommes tous nés dans la famille en Adam. Cette famille est sous la malédiction qui s'appelle le péché. On est tous nés dans la famille en Adam, et cette famille est sous une malédiction qui s'appelle le péché. Et un homme est venu et a pris cette malédiction. Il s'appelle Jésus, c'est le Christ, celui qui est moins, le roi, qui veut nous faire entrer dans sa généalogie. Il veut maintenant offrir l'adoption à tous ceux qui regrettent leur péché et qui s'en détournent en croyant qu'il a tout payé à la croix. Ainsi, celui qui croit est adopté dans la famille en Christ. Il devient héritier de cette famille. Il entre dans l'histoire de cette famille. En fait, l'histoire de cette famille devient la sienne. C'était le petit praliné. Et j'en arrive à une conclusion très courte et très simple. Nous avons vu que la généalogie de Matthieu, pourquoi est-ce que Matthieu a écrit la généalogie dans son évangile ? Eh bien, c'était pour nous indiquer que Jésus est un roi légitime. Nous avons vu qu'elle indique que Jésus est la descendance promise à Abraham, par laquelle Dieu bénirait les familles de toute la terre. Donc, quand Dieu a dit à Abraham qu'il bénirait les familles de toute la terre, c'est quelque chose de réalisé. Vous faites partie de gens qui sont dans toute la terre. On n'est pas en Palestine ici. On n'est pas des descendants de sang d'Abraham, etc. Des familles de toute la terre. Nous avons vu que même les significations des noms ont un message. Parce que Dieu est capable de maîtriser même les noms qui sont donnés. Nous avons vu que les cinq femmes présentes dans cette généalogie sont une porte qui nous montre la grâce et la bonté de Dieu. Cette généalogie, en fait, nous fait penser à notre généalogie. Et voici le message de Noël, en fait. Jésus est venu pour nous donner le moyen d'entrer dans une nouvelle généalogie, afin de ne plus être de la famille en Adam, qui est sous la condamnation, et à entrer dans la famille en Christ, qui est sous la bénédiction. Je vous relis ce message. C'est le message de Noël, en fait. Jésus est venu pour nous donner le moyen d'entrer dans une nouvelle généalogie, afin de ne plus être dans la famille en Adam, qui est sous la condamnation, mais entrer dans la famille en Christ, qui est sous la bénédiction. Et la question qui nous reste, évidemment, es-tu entré dans la généalogie en Christ ou es-tu encore dans la généalogie en Adam ? Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu vivant, plein de grâce, et tu nous donnes ce matin, même en lisant une généalogie, de réfléchir à qui tu es. C'est vrai que si on lit notre généalogie, qu'on voit des personnes que l'on connaît, nos parents, grands-parents, etc., nous sommes un petit peu intéressés. Lorsque nous regardons peut-être la généalogie d'un ami que l'on aime beaucoup, qui nous montre tous ceux qui ont fait partie de sa généalogie, bien ça peut nous intéresser. Seigneur, j'aimerais te prier aussi que lorsque nous regardons la généalogie de Christ qui est notre bien-aimé, celui que, pour qui quelque part on est prêt à donner notre vie, et bien qu'on puisse en être réjoui, qu'on puisse chercher à comprendre tous ces éléments qui font partie de cette généalogie, de cette parole de Dieu que tu nous donnes encore aujourd'hui, qui est vraie, qui nous montre que Jésus fait partie de l'histoire, qu'il n'est pas venu de nulle part, qu'il est celui qui nous a été donné, qui s'est réellement en fait impliqué, qui est réellement devenu un homme pour que nous puissions être sauvés. Seigneur, je suis aussi bien conscient que nous pouvons parler de ta parole, nous pouvons la lire, nous pouvons même chercher à la méditer sans qu'elle nous fasse aucun effet. Eh bien Seigneur, j'aimerais te prier que ce ne soit pas le cas dans nos vies aujourd'hui. Parce que Nous comptons sur l'œuvre de ton esprit, nous comptons sur cette grâce que nous avons envie vraiment de connaître, de chercher, et que tu puisses, Seigneur, permettre que chacun ici présent soit encouragé, soit fortifié, et que ces temps de Noël prennent aussi une signification toute particulière de réjouissance et de joie, parce que nous pouvons et nous avons cette joie de pouvoir changer d'une généalogie qui est dans la malédiction pour entrer dans une généalogie de bénédiction pour l'éternité. Sois loué et béni dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.